Bien, Gisela, nous avons déjà 6 minutes de retard. Je pense que nous pouvons commencer, dit Olivier Crépin-Leblond. Et donc, nous allons commencer l'enregistrement et commencer notre webinaire. Merci, Olivier, dit Gisela Gruber. Nous commençons donc l'enregistrement. L'enregistrement a commencé. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue à cette présentation d'Atlarge sur le groupe de travail intercommunautaire sur la responsabilité. Aujourd'hui, c'est le 29 avril, 13h UTC. Nous n'allons pas faire l'appel puisqu'il s'agit d'un webinaire, mais nous vous rappelons que nous allons avoir un service d'interprétariat en espagnol et en français. Et donc, s'il vous plaît, donnez vos noms pour la transcription et pour permettre aux interprètes de vous identifier sur le canal dans leur langue. S'il vous plaît, parlez à une vitesse raisonnable pour leur permettre de faire un travail correct. Et si vous êtes sur le bridge, mettez vos micros en muet. Olivier, vous avez la parole. Merci beaucoup, Gisela, dit Olivier. Je commence donc cet appel d'aujourd'hui. Nous avons une série de personnes qui vont faire une présentation, qui vont nous parler des différents aspects du travail du CCWG qui travaille sur la responsabilité, sur le renforcement de la responsabilité de la CAN en parallèle avec le groupe intercommunautaire qui travaille sur la transition des fonctions IANA. Et une grande partie du travail réalisé par le groupe intercommunautaire sur la responsabilité de l'ICANN correspond au groupe sur donc du travail du CWG. J'espère que cela va vous aider à comprendre ce qui se passe actuellement, avoir un petit résumé de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Léon Sanchez est le coprésident du groupe intercommunautaire. Nous avons Alain Grimberg, président de la LAC et aussi membre du groupe intercommunautaire. Cher Langdonor est aussi membre de ce groupe de travail. Avery Doria est une participante de ce groupe intercommunautaire et est un expert aussi dans le domaine de la TRT. Et elle participe donc avec ces deux responsabilités. Et la plupart des participants qui travaillent ici donc travaillent aussi dans le domaine de la transition des fonctions IANA, donc appartiennent à ces deux groupes intercommunautaires. Et ils vont nous expliquer où est-ce que nous en sommes, quels sont les problèmes qui surgissent actuellement et donc notre situation actuelle. Nous allons donc commencer par le premier orateur, Léon Sanchez, qui va donc nous parler du renforcement de la responsabilité de l'ICANN. Et Léon, vous avez la parole et vous pouvez contrôler les diapos, je pense. Merci beaucoup, Olivier. Léon Sanchez prend la parole. Je vais donc vous parler du renforcement des responsabilités d'ICANN, c'est-à-dire une des responsabilités du CCWG. Et je vous parlerai aussi de sa formation, de sa composition. Je ferai une mise à jour de la situation actuelle. Bien. Donc ici, vous voyez sur l'écran et de la formation de ce groupe qui a été donc formé après la déclaration de l'NTIA qui a annoncé que il allait donc confier ou donner la gestion des fonctions IANA à la communauté. Et je pense que mon audio n'est pas très très bon, on m'a dit ici. Et est-ce que vous pouvez m'entendre, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez correctement? Ou alors, est-ce que je dois demander comme rappel? Si Jeanne y répond, on vous entend correctement. Bien. Gisela prend la parole. Je voudrais confirmer que les interprètes entendent correctement. Nous allons confirmer cela, sinon nous allons demander, est-ce qu'on vous rappelle? Merci beaucoup, Gisela. J'ai toujours ce problème, hein. Je pense que c'est ma ligne. Je m'en excuse. Bien. Nous avons donc le cadre de travail qui a été décidé après la décision de l'NPIA. Donc, on va travailler sur la responsabilité et des fonctions IANA pour que cette responsabilité soit confiée à la communauté. Donc, on a créé ce CWG dans cet objectif. Et il est clair que donc le cadre de travail de ce groupe, et s'il s'agit d'un groupe de travail intercommunautaire qui travaille sur la responsabilité et qui va évaluer les mesures en place, les processus qui existent actuellement, mais la communauté pense que beaucoup de ces mécanismes qui existent ne suffisent pas et qu'ils doivent être améliorés. Et donc, c'est le travail de ce groupe. Il nous faut aussi analyser les mécanismes de responsabilité concernant toutes les fonctions fournies par ICANN, qui est donc dans le domaine des fonctions IANA, de la gestion des fonctions IANA, et bien sûr présenter des propositions qui permettraient d'améliorer la responsabilité de l'ICANN auprès de toutes ses parties prenantes. Lorsque le NTIA a décidé, le NTIA a décidé d'approuver les propositions venant de la communauté pour donc la transition, mais il y a une exigence de leur part, c'est que ces propositions doivent provenir des parties prenantes et qu'il doit y avoir un accord au niveau de ces responsabilités. Donc, la responsabilité dépend de la communauté de l'ICANN, mais aussi de la communauté des parties prenantes dans son ensemble. Pour organiser notre travail, nous avons divisé ce travail en deux axes. Le premier, qui se focalise sur l'axe de travail sur lequel nous travaillons actuellement, et analyse les mécanismes qui doivent être en place ou qui devront l'être avant la transition des fonctions IANA, ce qui veut dire que les mécanismes et les mesures pour évaluer ces mécanismes doivent être mis en place avant que la transition ait lieu. Ça, c'est l'axe de travail numéro 1. Le deuxième se focalise sur les thèmes de responsabilité pour lesquels nous avons davantage de temps, pour lesquels nous avons un calendrier plus flexible. Et donc, cela peut avoir lieu après la mise en place de la transition des fonctions IANA et il s'occupe de questions peut-être moins importantes, mais il s'occupe de questions qui n'existent pas actuellement et qui doivent être mises en œuvre pour répondre aux questions de responsabilité. Une fois que l'axe de travail numéro 1 aura été mis en place et donc il s'agit de la vision du travail sur lequel nous organisons actuellement et pour vous donner une petite idée de la façon dont fonctionne ce groupe, la façon dont il est composé, quels sont les différents membres et les différents participants, nous avons 161 personnes qui appartiennent à ce groupe. Nous avons 25 membres, 136 participants et 38 listes de diffusion et observateurs de cette liste de diffusion. Et ces membres doivent parvenir à un consensus sur les problèmes qu'ils vont aborder. Ils vont pouvoir voter, ces membres vont pouvoir voter, les participants n'ont pas le droit de vote. Et Hormis cela, cette différence, l'interaction entre les membres, les participants et leurs observateurs et leur rôle et leurs fonctions sont les mêmes. Tout le monde peut participer, peut donner son opinion et contribuer, faire des commentaires. Et donc, nous sommes sur nous avons donc le même statut, à l'exception de la possibilité de voter, et on recherche donc un consensus sur les thèmes que nous abordons. Et sur ces 25 membres, nous avons un représentant pour chaque région et nous avons aussi un coprésident, moi-même. Il y a aussi des représentants, un de la GENESO et un de la CCNSO. Et donc, cette structure a formé donc ce groupe de travail et nous avons aussi organisé une série de réunions face à face. Une réunion a eu lieu à Francfort et une autre a eu lieu et je peux dire, et la dernière réunion a eu lieu à Istanbul et notre prochaine réunion aura lieu à Buenos Aires lors de la réunion LICAN. Aura lieu donc le 19 juin. Nous allons avoir une session, donc une réunion face à face et je vous donnerai les derniers détails concernant cette réunion si vous voulez y participer. Voilà. Donc ce que nous avons ici sur l'écran maintenant est une synthèse graphique de ce que le CCWG a fait jusqu'à maintenant. Donc ce que nous avons fait en premier lieu est un inventaire des mécanismes de responsabilité existants. Il y a eu un processus de commentaires publics qui a été organisé sur la question de la transition au cours de laquelle la communauté a fourni ses contributions sur la manière de renforcer la responsabilité de l'ICANN. Ce que nous avons fait, nous avons donc posé ces questions à la communauté, nous avons réuni leurs réponses dans un document unique et nous avons établi les différents mécanismes de responsabilité, nous les avons identifiés et dans différents donc, flux de travail ou axes de travail et nous avons donc révisé ces mécanismes au cours de la première phase. Ensuite, nous avons défini les exigences qui existaient dans ce domaine et nous avons travaillé donc au niveau des plans de risque et des contingences. Nous avons mis en place des principes à partir de là. Ensuite, nous avons analysé l'autonomisation de la communauté ou l'habilitation à donner à la communauté et ensuite les mécanismes de révision et de correction. Donc jusqu'à maintenant, nous en sommes là et nous allons passer à notre troisième phase de travail qui va être présentée aux commentaires publics dans peu de temps et nous allons fournir aussi des conclusions à la communauté concernant ces premières étapes que nous avons réalisées et nous allons analyser les commentaires et pour donc les solutions ou les propositions qui sont présentées jusqu'à maintenant. Il s'agit ici des différents aspects de la proposition que nous allons présenter et que nous considérons actuellement et nous attendons des commentaires de la communauté. Par exemple, si vous regardez ce document, nous parlons de la possibilité d'avoir une modification dans la structure de l'ICANN Et donc, on aurait un modèle pour les membres ou un modèle d'un autre type. Donc, c'est quelque chose qui peut ne pas paraître très important, mais qui l'est cependant lorsqu'il s'agit de la question légale, du fonctionnement de l'organisation, sur la façon dont on pourra appliquer les mécanismes de responsabilité que nous envisageons actuellement de mettre en place. Donc, nous sommes en train de mettre en place ce document avec ces deux options. Nous avons une troisième option. Cela signifie que nous allons, que le travail qui a été fait au sein du CWG nous amène à penser que ces mécanismes seraient les meilleures options, qui seraient donc une option A ou une option B. Nous allons annoncer cela à la communauté par la suite, lorsque nous aurons pris une décision. Nous allons analyser d'abord ces possibilités et de façon à améliorer la proposition générale telle qu'elle sera présentée finalement. Après donc ces révisions, après donc la réalisation de ce travail, nous avons quatre composantes clés que vous voyez ici. D'abord la communauté donc habilitée, ensuite le conseil, ensuite les principes qui sont contenus dans les statuts et le quatrième, les mécanismes d'appel indépendants. Nous allons donc avoir des pouvoirs et ces statuts seront les constitutions et les mécanismes d'appel indépendants seront les pouvoirs judiciaires. Donc, selon cette organisation, nous allons pouvoir utiliser différents types de mécanismes de responsabilité qui pourront être déclenchés ou pas. Par exemple, si nous parlons des mécanismes déclenchés, cela pourra être des actions que la communauté souhaite de mettre en place ou en cas d'événement, un événement qui, au sein duquel le conseil a agi à l'encontre des principes des statuts. Donc, dans ce cas-là, des mécanismes seront mis en place pour que différentes parties de la communauté puissent s'assurer que ICANN respecte et les membres donc, du personnel de l'ICANN respectent ces principes et agissent en fonction des ou respectent les statuts de l'ICANN. En ce qui concerne les mécanismes d'appel, on peut penser par exemple aux mécanismes de la TRT qui sont déjà dans notre système et qui sont des systèmes d'application permanente et donc qui pourraient s'appliquer à certains membres, à certaines organisations et qui sont des systèmes qui donc existeront en permanence. Nous avons donc ces quatre éléments clés et cela nous a permis de mettre en place des modèles pour ces mécanismes. On peut les considérer comme des recettes pour permettre de mettre en place ou d'appliquer différents critères qui devront être pris en compte. Et donc, les mécanismes de responsabilité pourront être appliqués et respectés pour atteindre un objectif en particulier. Ça pourra être des mécanismes de révision ou des mécanismes des pouvoirs particuliers, comme par exemple la nécessité d'approuver les statuts de l'ICANN ou avoir le pouvoir d'empêcher certains changements dans les statuts. aussi le fait d'avoir une dernière ressource, un dernier recours, pardon, pour donc révoquer l'ensemble du conseil ou certains membres du conseil. Donc voilà, ce seraient les mécanismes que vous pouvez donc voir si vous regardez ce document dans le détail, les différents documents qui existent, que nous avons rédigés dans le détail et que nous avons rédigés jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et ici, vous voyez de nouveau les différents acteurs et ces propositions seront donc présentées. Nous avons une équipe très utile, très importante, qui a analysé toutes les structures et les différentes situations possibles. Nous avons 21 situations différentes qui ont été identifiées. On a donc analysé ces différentes situations et donc il y a eu des tests de résistance qui ont été identifiés et on a développé donc différents tests de ce type de résistance pour s'assurer que comme Cheryl l'a dit, et nous allons en reparler, il s'agit d'une autre exigence de l'NTIA, que tout ce qui sera proposé, tout ce qui sera donc présenté doit être passé par des tests de résistance. Donc si l'on passe directement maintenant à cette diapo, vous voyez donc la trajectoire du CCWG, nous avons la solution envisagée, nous avons la partie donc de résistance au stress, le test de résistance, pardon, de cette solution. Si elle n'est pas acceptée, elle sera renvoyée aux différentes organisations de façon à recommencer à faire des tests de résistance. Et si c'est accepté, notre recommandation sera soumise au conseil et le conseil la présentera à l'NTIA. Donc, si vous voulez participer à ces activités, il s'agit d'un groupe ouvert au public et vous pouvez suivre ce que nous faisons, toutes nos activités, les ordres du jour de nos réunions, les réunions du CCWG. Et vous avez, je vous mets ici le lien sur l'écran, de la page wiki de notre groupe, donc CCWG sur la responsabilité ou le renforcement de la responsabilité de l'ICANN. Les prochaines étapes sont donc la rédaction des propositions pour qu'elles soient soumises aux commentaires publics le 1er mai. Et nous aurons une période de commentaires publics de 30 jours au cours de laquelle nous allons réunir les commentaires de la communauté et ensuite, après cette période de commentaires publics, nous allons analyser les réponses reçues de la communauté et lors de la réunion de Buenos Aires, nous allons incorporer les différents commentaires reçus au cours de cette période de commentaires publics, de façon à pouvoir faire une deuxième version préliminaire de la proposition que nous présenterons quelques jours après la réunion de Buenos Aires. Et donc, si nous pensons qu'il est nécessaire de repasser par une période de commentaires publics, et si la communauté nous a fourni des commentaires utiles, nous les inclurons dans cette proposition et nous analyserons bien sûr les propositions des organisations membres de façon à ce qu'elles puissent approuver ce processus, participer à ce processus en général et ensuite nous présenterons cela au Conseil qui, à son tour, le présentera à l'NTIA. Voilà. Je voudrais maintenant donner la parole à Olivier et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci.
Olivier prend la parole. Merci beaucoup, Léon. Vraiment, c'était très exhaustif. Et on a une idée claire maintenant du processus de responsabilité de l'ICANN, de réduction de comptes. On sait bien ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et on sait ce qui va se passer d'ici peu. Alors, on va attendre jusqu'à la fin des présentations pour poser les questions. Et nous allons donc directement passer immédiatement à Alan Greenberg, président de la LAC, et qui est membre dans un groupe de travail, une équipe de travail. Alan prend la parole. Merci Olivier, merci Léon de ce compte-rendu. Je vais me centrer sur un nombre de questions. Questions qui, à mon avis, n'ont pas été vraiment discutées, sur lesquelles on n'a pas pris de décision pour l'instant. Alors, en premier lieu, je voudrais que l'on discute rapidement les pouvoirs dont on parle ici. Je pense que c'est une question fondamentale. Et ce qu'on devrait se demander est qu'est-ce qu'on reçoit? Comment fait-on pour, je ne dirais pas contrôler la CAN, mais pour avoir une influence sur la manière dont la CAN agit? Et merci Gisela, ou je ne sais pas qui c'est qui contrôle la salle Adobe Connect, mais c'est exactement ce que je cherchais. Alors, si vous voyez en haut de la table, on a 5 colonnes, et ce sont les 5 catégories principales dont on parle dans le cadre de ce projet de reddition de comptes ou de responsabilité. Donc d'abord, on parle de la capacité de forcer ou d'encourager le conseil d'administration à réviser le plan opérationnel, le budget et de le rejeter aussi également. Hein. Ce sont des points critiques et si on voit que le conseil d'administration avance dans un sens, dans une voie qui nous semble incorrecte, on voudrait pouvoir contrôler cela. Lorsque je parle de contrôler, eh bien, je vous expliquerai dans quelques minutes de quoi je parle. Lorsque je dis contrôler, ce n'est pas la possibilité de dire non, ou alors ça pourrait être la possibilité de demander au conseil de soumettre la question à un modérateur, un arbitre indépendant qui puisse décider sur la question. La deuxième colonne porte sur l'approbation de la communauté qui devrait pouvoir être demandée pour les modifications des statuts constitutifs. Alors, on contrôle ce que la CAN fait à travers les statuts constitutifs et voilà pourquoi ils sont si importants. La colonne suivante est celle des statuts constitutifs fondamentaux. Ce sont les modifications fondamentales aux statuts constitutifs. Ce sont les points qui sont vraiment d'une importance considérable pour la communauté et qui doivent être approuvés par la communauté. Donc là, le Conseil doit suivre un processus qui assure qu'ils vont respecter les statuts constitutifs et qu'il va y avoir un mécanisme approprié pour que ces modifications soient approuvées par la communauté. Alors là, le quatrième point est la possibilité de révoquer le Conseil d'administration, de renverser le Conseil existant, ce qui pourrait être fait d'une part, et qui d'autre part, et ce que d'autre part, on espère, pourrait être suffisant pour que la communauté considère les questions d'intérêt et émette son opinion. Alors, on a des consultations sur la création de budget en ce moment, qui sont habilitées par un conseil d'administration qui est soutenu vraiment par la communauté. Alors, l'idée est d'assurer que ce niveau d'interaction soit assuré. Alors, ce sont les différents types de pouvoirs qu'on a. Si vous défilez un peu vers le bas de la page, juste en bas de page, vous allez voir qu'il y a une file qui s'appelle « Pouvoir de vote relatif ». Alors, c'est le pouvoir que les SO et les AC ont pour prendre ce type de décision. Alors, dans la première colonne, on a la CCLSO, la GLSO, la SO, Adlarge et le GAC qui ont chacune un pouvoir de 5 votes. Il faudrait décider si c'est approprié et voir si on ne devrait pas avoir des votes par organisation de soutien ou par comité consultatif, plus un vote d'un conseiller. Puis, on parle également du RSAC, du SAC, avec un vote de 2 chacun. Alors, c'est un peu controversé dans le sens que vous allez voir que ALAC et le GAC n'ont pas la même quantité ici que le reste, pour ce qu'ils apparaissent encore. Alors, la question est si ce serait approprié que certains groupes aient davantage de votes que d'autres. Et cela, en fait, correspond au fait que certains groupes ont davantage de membres, ont un poids plus important et devraient peut-être avoir plus de pouvoir en conséquence. Et alors, on ne peut pas prendre des décisions ou non d'autres groupes simplement parce qu'ils ne sont pas présents pour discuter des questions qui les intéressent. Alors, il faut bien considérer cette question du point de vue des différents groupes. Léon faisait allusion à une autre question qui est ce concept de membre. Qui sont relevés de leur fonction. Alors, en conformité avec la loi de Californie, il y a deux manières de relever les membres de leur fonction. D'une part, on dirait que les membres ont un niveau de contrôle très fort des décisions du conseil d'administration. Et donc, ils devraient avoir la possibilité de pouvoir détailler les budgets, par exemple. D'autre part, on a le concept de désignateur, c'est-à-dire que le conseil d'administration va désigner des entités pour qui ça forme auprès des membres. Mais là, le pouvoir des membres n'est pas tellement fort, parce que ce n'est pas les désignateurs qui vont prendre des décisions, ils ne peuvent pas avoir le pouvoir de veto, mais plutôt ils s'informent. On voudrait suivre ce modèle de désignateur, de représentant, comme on les appelle. Et ces désignateurs devraient être dénommés par les organisations, par les conseils. Donc l'ALAC devrait avoir son propre désignateur. Si l'on faisait cela avec le pouvoir que la loi nous attribue, on pourrait accéder à un niveau de pouvoir qui pourrait ne pas être approprié. Donc, cela devrait se faire à travers une association ou une entité qui soit établie en conformité avec la loi. En ce moment, nous, on n'est pas une entité établie en conformité avec la loi, ce n'est pas une société qu'on intègre. Donc, on pourrait ne pas accepter un membre du conseil d'administration, mais on n'a pas le pouvoir de le relever de ses fonctions. On n'a pas le statut qui nous permettrait de le faire. C'est intéressant parce qu'on a découvert cela qu'à travers ce processus. On ne le savait pas jusqu'à présent. Alors, il faudrait que l'on considère notre pouvoir. Il y a eu un nombre de manifestations d'inquiétude qui montraient que cette question pourrait être plutôt assez critique. Hein. Et les gouvernements et les dépendances gouvernementales, les organismes parmi lesquels nous situons les CCTLD, ne constituent pas des organisations. Et alors, on se demande si la CCLSO ou le GAC pourraient être formés formellement comme société. C'est pour être être établi comme tel. Alors, voilà où on en est. On attend à ce moment à ce que les groupes pertinents prennent la décision de leur statut, de ce qu'ils veulent faire. Bien sûr, dans notre cas, ça va prendre un peu plus de consultation. Et le problème avec les pouvoirs au sein du conseil d'administration, en réalité, sont qu'il faudrait voir la question des désignations au conseil d'administration, ce qui ne se ferait pas normalement maintenant. Alors, je vais maintenant donner la parole à Cheryl, qui va parler des essais, des tests de stress. Et je pense qu'on devrait peut-être d'abord définir simplement ce qu'est un test de stress. Lorsqu'on parle du test de stress, on parle de l'identification de quelque chose de potentiellement mauvais qui pourrait avoir lieu et de vérifier si l'on peut prévenir que cela arrive ou pas à travers les mécanismes que l'on a créés. Dans la plupart des cas, nous croyons que les mécanismes existants pourrait résoudre le problème. Mais dans un certain cas, on croit que ce n'est pas le cas et qu'on devrait peut-être considérer ou reconsidérer la question et les mécanismes existants. Alors, on devrait peut-être unir nos esprits et que chacun contribue avec ses idées pour voir si cela correspond à la réalité ou pas, si c'est utile ou pas comme mécanisme ce qu'on a. Je donne maintenant la parole à Cheryl. Cheryl prend la parole. Merci, Alain. Je sais que je n'ai pas énormément de temps. Et je pense qu'on devrait peut-être afficher encore la présentation de Léon pour revenir sur le graphite qui était inclus. On va voir. Alors, pendant ce temps, je n'ai pas parlé des tests de stress pendant 20 minutes, mais vous pourrez trouver des informations des principales dans les commentaires qui portent sur ces tests de stress. Bien sûr, il va falloir que les membres considèrent ce graphique que je cherche. Alors, ici, dans ce que je veux montrer, est que notre groupe est identifié comme une inquiétude ou un groupe de préoccupation potentielle. Je remercie Alan de nous avoir donné une description détaillée de la question, des complexités et des simplicités. Et alors, en tout cas, notre groupe peut faire ces tests de stress comme exercice intellectuel, considérer les mécanismes, les droits. Et en tout cas, déclarer ou exprimer ses préoccupations par rapport à certaines questions spécifiques qui pourraient résulter préoccupantes pour nous. En tout cas, ces tests de stress exigent que l'on exprime clairement les résultats. Dans le cadre de cette consultation, on vise à trouver des solutions aux problèmes qui pourraient surgir. Alors, parmi les solutions, en cas de problème avec la responsabilité, on parle des résultats des tests de stress qui pourraient être ou qui pourraient s'avérer utiles pour résoudre ces situations. Bien sûr, tout cela va dépendre de la transition du rôle de supervision du fonctionnaire. De toute façon, vous connaissez peut-être les industries financières qui suivent exactement ce modèle des tests stress, c'est ce qu'ils font à chaque fois pour identifier les faiblesses potentielles. Et qui présente finalement les résultats probables. Et c'est ce qu'on compte faire avec la responsabilité de la CAN. On compte voir les résultats probables des catégories qui nous occupent. Pour évaluer la viabilité financière et la viabilité des mécanismes de solution en cas de manquement aux mécanismes de responsabilité, en cas de manquement à ces engagements de responsabilité. Vous allez sans doute voir que les informations dont vous avez besoin pour exécuter ce type de test, sont toutes publiées. Et même dans les périodes de consultation publique pendant lesquelles on a discuté des processus de responsabilité, on m'a dit qu'il y avait des tests qui ne considéraient pas certains facteurs, comme par exemple la solution de certaines infractions. D'autre part, il y a des individus qui travaillent dans ce contexte et qui travaille sur le développement de ce type de stress, de test. Alors, on devrait peut-être travailler sur le développement d'un outil généralisé, mais ça pourrait ne pas être le plus approprié. On a aussi des pouvoirs de la communauté et des mécanismes auxquels la communauté peut faire recours. Et il faut que l'on assure donc que la communauté ait accès à ce type de mécanisme de responsabilité, sachant qu'on a des processus qui pourraient s'avérer utiles et d'autres qui pourraient ne pas s'avérer utiles alors. Le plus sensé serait de revenir à l'équipe de travail qui s'occupe des mécanismes spécifiques à laquelle je participe et discuter de la possibilité de considérer les mécanismes de protection des droits que nous avons tout en discutant de l'impact que pourraient avoir nos mesures qui devraient être limitées, minimes. Et on devrait également considérer la nécessité de publier un document dès maintenant ou si on devrait peut-être remettre ce document à plus tard. Si vous croyez avoir une bonne idée, être tombé sur quelque chose qui pourrait nous être utile, faites-le nous savoir. Mais, puisqu'on n'a pas tellement de temps, on n'essaie pas de présenter les tests de stress. Plutôt, on essaie de présenter ce qui pourrait ne pas constituer un bon test de stress ou un bon mécanisme. Alors, je m'arrêterai là. Les matériels auxquels vous pouvez accéder sont très détaillés, ils ont beaucoup d'informations utiles pour que vous compreniez et vous donnent l'occasion, bien sûr, d'exprimer votre propre opinion, sachant qu'est-ce qui a été fait. En même temps, ils identifient aussi les occasions que vous avez de participer à la période de consultation publique par écrit. Et voilà, c'est tout. Merci. À veuillez prendre la parole, merci. Ciao, je serai brève. Je vous raconterai un peu de ce que j'ai fait depuis la dernière réunion. et des obstacles qu'on a rencontrés. Donc l'idée était de communiquer avec tout le comité, pas seulement avec une partie du comité. Et on voyait qu'il y avait des personnes qui visaient à atteindre l'égalité et d'autres qui, en réalité, accordent à chacun des privilèges différents. Alors, j'ai considéré les résultats de la TRT et on visait à intégrer les engagements qui sont surgis de cette révision au statut. Alors, c'est sûr qu'on ne va pas avoir la possibilité de participer avec la FC, mais l'idée est assurée que ces garanties soient ajoutées au statut constitutif avec comme obligation. Et le fait qu'il soit inclus dans les statuts constitutifs veut dire que le seuil de la quantité de personnes qui doivent approuver ces modifications pour qu'elles soient approuvées devrait être plus haute. Alors, cela nous donnera la possibilité de modifier les révisions dans le temps. Alors, outre le besoin qu'on a identifié de faire ces révisions au statut constitutif, on a vu que les résultats de la TRT2, la dernière équipe de révision de la responsabilité et de la transparence, j'ai lu le rapport financier sur... En réalité, ce n'était pas un rapport financier, mais on aurait dit que ce l'était parce que c'était le format qui nous faisait penser à ça. Alors, on a lu dans ce rapport le statut des travaux qui ont été faits pour mettre en place les recommandations qui surgissent des révisions. Donc, pour ce qui est des recommandations qui ont été faites, donc avec le SSR, par exemple, on se demandait à quel point le conseil d'administration avait accepté ces recommandations, combien ou quelle proportion de ces recommandations avaient été acceptées. Alors, peut-être qu'une manière de pouvoir s'occuper des rémédiations et si l'on évite les révisions qui ont des délais si longs. Ce qu'on se demande est comment le conseil d'administration devrait mettre en œuvre les recommandations reçues, s'il est obligé à le faire. Et combien d'autres ATRT pourrait exister, quels sont les membres de TRT qui ont déjà existé, qui pourraient intégrer les nouvelles ATRT. Je pense que les gens ne lisent pas d'habitude les rapports qui sont préparés à la fin du travail de l'ATRT, des ATRT. Mais en tout cas, c'est tout ce qu'on a à dire jusqu'à ce moment. Alors, je passe la parole à Olivier. Merci, Abrid et Olivier. Je vais maintenant donner la possibilité à toutes les personnes qui participent à cet appel de poser des questions au reste des membres, pourquoi pas, ou aux panélistes. Je vois d'abord Tizani qui est dans la queue. Tizani, vous pouvez prendre la parole, allez-y. Bien, merci Olivier, j'ai certaines remarques que je vais communiquer au groupe au nom du CWG. comme Alan a dit, il faudrait être une association établie en conformité avec la loi, être une société de droit pour pouvoir prendre certaines mesures. Et cet aspect pourrait être critique pour nous. C'est une limitation qui pourrait être critique. Parce qu'on se demande combien on peut faire en vertu des statuts constitutifs au sein de l'AIDAN en vertu de cette limitation, de cette contrainte que l'on a. Outre le fait que la CCNSO et que peut-être le GAC pourraient ne pas avoir cette limitation. Maintenant, pour ce qui est de la communauté, comme Alan l'a dit, on a ces valeurs de 5 et 5 et puis 2 plus 2. Mais le problème est que pour la période de consultation publique, on devrait peut-être avoir 5 plus 5 plus 2 plus 2. Alors que les SO aient 5 votes. Pour pouvoir mieux représenter leurs membres. Je pense qu'il faut que l'on ait au moins la possibilité d'exprimer nos votes au même niveau. Puis on a la question des révocations. Des propositions du groupe disant que le pouvoir que la communauté allait recevoir ne leur permettrait pas de révoquer le conseil ou même de rejeter le budget. Mais en ce moment, on leur demande leur approbation, ce qui veut dire que la communauté pourrait ne pas l'accepter, mais que en réalité, l'opinion de la communauté n'est pas contraignante pour le conseil d'administration, elle n'est pas obligatoire. De toute façon, le conseil va choisir de la suivre parce que c'est dans son intérêt. Mais le pouvoir que la communauté a par rapport au budget n'est pas tel qu'on le croyait. En tout cas, pour la révocation des membres du conseil d'administration, on intègre un groupe qui appartient à la ligne de travail numéro 1 en ce moment et qui existe aujourd'hui. Mais je pense que cette question est double. D'une part, les SO et AC vont, à partir de maintenant, pouvoir révoquer le membre qui les représente. Ils vont pouvoir relever de ses fonctions ce membre. Ce qui serait positif pour l'organisation dans l'ensemble. Parce que ce serait une organisation qui aurait le pouvoir de pouvoir participer à travers sa communauté, où la communauté aurait le pouvoir de s'exprimer. Puis d'autre part, il y a le NOMCOM, qui pourrait également avoir le pouvoir de renverser un conseil d'administration ou un membre particulier. Et je ne vois pas comment cela pourrait être fait en réalité. On n'a pas de ligne directrice pour la communauté et il n'y a pas d'instruction de comment le faire. Alors, je ne vois pas comment cela pourrait être fait. Donc, voilà les problèmes que j'identifie pour cette question. En dernier lieu, je voudrais parler du renversement du Conseil complet. Alors, je proposais qu'il y ait des conseils d'administration, des membres qui aient des suppléants déjà désignés. Alors, une fois qu'un membre du conseil d'administration est relevé de ses fonctions, on pourrait tout simplement faire entrer ce suppléant qui a déjà été désigné. Et voilà, merci.
Merci beaucoup, Tijani. Olivier Crépin-Leblond reprend la parole. Et oui, beaucoup de choses, hein, Tijani. Je voudrais savoir si nos collègues, Alain, Avery, Cheryl, Léon, ont une réponse à ce que Tijani vient de faire ou sur les points que Tijani vient d'aborder. Alain Greenberg demande la parole. Alain, vous avez la parole. Merci, Olivier. Je n'ai pas pris note de ce que Tijani a dit. Je vais répondre un peu dans le désordre en ce qui concerne la révocation des directeurs et l'inclusion dans l'axe de travail 1 ou 2. Nous avons pris cette décision, mais je pense que c'est un peu le signe d'une dynamique que nous avons adoptée, d'une organisation de travail adoptée. Et je dirais que oui, c'est peut-être pas tout à fait correct, mais c'est comme ça. Et en tout cas, la possibilité de révoquer l'ensemble du conseil, c'est un point important. Il faut voir comment on organise cela pour que l'ICANN continue à fonctionner normalement. Le problème des directeurs et le fait que je pense que ce n'est pas vraiment un problème de premier ordre. Je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que je pense que toute organisation, tous les paramètres de base d'une organisation et tous les autres paramètres sont plus importants. Et je pense que si un directeur nommé par At-Large ou par la GNSO, par toute autre organisation, met en place des actions, des poursuites qui ne seront pas appréciées par l'organisation qui les a sélectionnées, on peut convoquer ce directeur pour lui expliquer pourquoi, lorsque l'on sélectionne un directeur, on ne sélectionne pas un directeur seulement pour qu'il soit à notre disposition. On sélectionne une personne qui comprend bien les problèmes, qui s'y connaît, hein, qui est experte dans un certain domaine. Maintenant, lorsque on approche de la période de rénovation, hein, on sait que les directeurs vont passer par des votes et qu'ils essayent d'être heureux, d'être sélectionnés à nouveau, d'être réélus. Hein. Mais je pense qu'en général, ce n'est pas le cas et les directeurs qui sont élus, qui sont sélectionnés, sont suffisamment mûrs et peuvent parfois ne pas être renommés ou ne pas être resélectionnés et par leur organisation, mais c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Donc je ne pense pas que ce soit un problème important. Je crois qu'il est important de reconnaître que des fois, on a fait un problème lorsqu'on a nommé une personne et qu'il faut résoudre ce problème. Ça, c'est important de savoir. Voilà. J'ai fini, dit Alain. Merci beaucoup, Alain, dit Olivier Crépin-Leblond. Tijani, vous avez levé la main. Vous voulez reprendre la parole? Non, je m'excuse. Bien, merci, Tijani. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce point-là? J'ai une question que Tijani a abordée, la question des votes. Est-ce qu'on peut revenir à la diapo qui montre les pouvoirs de la communauté, puisque je pense que c'est un point clé du travail, de ce groupe de travail qui est là. Est-ce qu'on peut revenir à la diapo et qui montre les pouvoirs de la communauté, ce qui est entre les mains de la communauté? Bien. Tijani a aussi mentionné le vote. Et je ne sais pas si j'ai très bien compris ce que vous avez dit, quelle était l'idée qui était derrière cette première page. Le vote, les capacités de, au niveau du vote. Bien. Je vais vous laisser. Bien. Je vais le mettre à la bonne place, dit Hélène. N'y touchez pas, s'il vous plaît. Bien. Hélène, je regarde les chiffres ici. Et la CCNSO, la CNSO, Atlarge, le GAC, ESSAC, RSAC. Cela veut dire que chacun a un vote. Ah. Est-ce qu'il y a une différence ici? Non, je pense que ce que Tijani disait, mais je vais lui donner la parole pour qu'il me corrige, c'est que chaque groupe a le même nombre de voix. Ce n'est pas l'option qui est ici. Bien. Donc ici, ce qui figure ici, c'est que la CCNSO aura 5 votes, la GNSO 5 votes, Adlarge aura 5 votes, GAC aura 5 votes, et ensuite il y aura 2 votes pour SSAC et pour RSAC. Ou est-ce que c'est le premier que vous venez de décrire, ce qu'on appelle le modèle de référence? C'est la troisième option par les personnes qui participent aux discussions, pour les personnes qui participent aux discussions. Hein. Les autres avaient été choisis par un petit nombre de gens. Et c'est pour ça que cela ne figure pas ici. Et la troisième possibilité suggérée par une série de gens, c'est que tout le monde ait le même poids, hein, la même pondération pour leur vote. Je crois que c'est soutenu par un plus grand nombre de gens que la deuxième option. On peut demander au co-président si c'est cela et pourquoi c'est cela. À propos, un point supplémentaire. À un moment donné, on avait l'impression que si Alak avait 5 votes, il fallait que ces votes soient faits de manière uniforme et se mettre d'accord sur une décision donnée. Notre objectif ici est d'atteindre un seuil de façon à ce qu'une organisation ne puisse pas faire un veto de son côté. Donc dans le premier scénario, il y a 29 votes. Le seuil ne peut pas être établi. À 25, parce que cela signifierait que 5 votes d'une organisation spécifique pourraient représenter un veto pour une décision. Voilà. Que ce soit inférieur pour être possible. L'autre point sur lequel on va discuter, c'est comment nous allons gérer les abstentions. Si l'on traite les abstentions comme des non, à ce moment-là, aucune décision ne pourra être prise. Hein. Par exemple, il y a des problèmes au niveau du GAC. Donc les abstentions ne seront pas considérées comme des non, mais on aura un problème. Il y a encore beaucoup de problèmes, comme vous le voyez, de doutes concernant le vote. Merci beaucoup, dit Olivier Crépin-Leblanc. La prochaine question est aussi liée aux différents processus que nous avons ici. Il y a 5 processus. Apparemment, il y a différentes. Il y a différentes périodes, différents délais. Tijani l'a dit. Donc, rejeter le budget ou demander des modifications dans le budget signifie que AECAN doit fonctionner sans un budget approuvé. Et cela est quelque chose qui est un processus qui est dangereux et qui dépend vraiment du calendrier, non, et du délai appliqué. Alain prend la parole. Oui. Il y a 2 ans, AECAN n'a pas approuvé son budget et avant la fin du mois de juillet, ce budget n'a pas été approuvé. Hein, donc, on continue à fonctionner en fonction du budget de l'année précédente jusqu'à ce que le nouveau budget soit approuvé. Hein. Ça ne veut pas dire que de nouvelles propositions ne vont pas pouvoir être financées, hein, mais ça veut dire que les systèmes de base continuent à fonctionner jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit prise. Si l'on a une situation dans laquelle les revenus ont diminué beaucoup, hein, les bénéfices ont beaucoup diminué, à ce moment-là, il faudra modifier certaines choses. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne paye pas, qu'on ne paye pas les salaires, qu'on ne fait pas des chèques, que l'argent n'est pas est alloué. Hein. C'est la communauté, hein, qui va avoir ce type de disposition. Donc, les systèmes vont continuer à fonctionner. Ayana va avoir des fonds réservés pour qu'il n'y ait pas de problème opérationnel au niveau de Ayana. Donc, c'est une série de détails, hein, mais qui sont importants. Hein. Ça ne veut pas dire que, donc, si le budget n'est pas approuvé, ça ne veut pas dire que nous n'aurons plus d'argent. Hein. Il faut s'assurer que nous avons certaines dispositions qui nous permettent de continuer à fonctionner. Tijani, vous avez la parole. Merci, Olivier. Oui, Alain, vous avez raison. Nous ne manquerons pas d'argent au début de l'année fiscale si le budget n'est pas approuvé, mais je pense que ce n'est pas une situation très confortable pour notre organisation. Et je pense que le mieux est d'avoir le pouvoir d'approuver le budget, non pas de le rejeter. Le budget ne peut pas être adopté par le Conseil s'il n'est pas approuvé par la communauté et approuvé étape par étape, comme c'est le cas. Je pense que c'est une bonne manière de travailler, puisque comme ça, nous n'aurons pas de retard. Nous aurons un budget et qui pourra être donc approuvé par la communauté et adopté ensuite par le Conseil. Merci beaucoup, Tijani. Olivier Crépin-Leblanc prend la parole. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires sur notre présentation d'aujourd'hui, sur les aspects et du travail réalisé par ce groupe de travail? Je vois que Léon Sanchez a levé la main. Léon, vous avez la parole. Léon prend la parole. Merci beaucoup, Olivier. Je voudrais reprendre un petit peu ce qui a été dit concernant l'approbation du budget. Nous devons voir encore si ce processus va être effectué par ou entre les mains de la communauté. Le budget sera soumis à la communauté. Il devra être approuvé avant l'adoption par le Conseil ou dans l'autre sens. Ce qui sera un petit peu plus compliqué peut-être, c'est-à-dire que le Conseil va approuver le budget et que la communauté aura une approbation finale de ce budget. Nous n'avons pas encore la formule qui sera choisie finalement, mais donc nous avons ces deux possibilités, hein, que ce soit le Conseil d'abord ou la communauté d'abord qui approuveront donc ce budget. Merci. Merci beaucoup, Léon, dit Olivier Crépin-Leblanc, qui reprend la parole. Je voulais demander aux intervenants, je sais que nous avons différents membres du groupe de travail qui sont sur cet appel aussi, je voudrais leur demander donc s'il y a des aspects de cette proposition ou de ce travail qui n'ont pas été couverts, qui n'ont pas été abordés dans notre webinaire. Sébastien, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Bachelet, je voulais intervenir sur différents points qui sont en discussion dans ce document. Je pense qu'il est très important que les membres des structures at large soient informés et participent à cette réflexion. Ça ne peut pas être une discussion seulement de spécialistes. La création du document, la création de la proposition, oui, mais pour ce qui est de la position d'Atlas, il faut absolument faire participer le plus de monde possible. Je sais que c'est difficile, mais je pense que c'est une occasion absolument indispensable où il faut le faire. Je suis très surpris de la voie qui est suivie ici, parce que quand on regarde, ce sont les mêmes structures qui vont voter pour définir différents organismes. Le conseil d'administration d'une part, les structures de, où il y aura 5 ou 2 représentants de l'ALAC ou d'ATLARG suivant la proposition qui est prise sur les pouvoirs de vote relatifs. Et donc, c'est les SO et les SI qui élisent des membres du board, et c'est les SO et les SI qui vont prendre des positions ici. Donc, les mêmes vont décider que ce que fait sa main droite est en désaccord avec ce que fait sa main gauche. C'est, je crois, une difficulté sur laquelle il faudrait qu'on y réfléchisse à deux fois. Il y a 2 points importants dans l'ensemble du document sur lesquels j'essaie de focaliser mon attention, c'est de s'assurer qu'il y a une réelle diversité de participation, d'échange, de réflexion, d'élection et de sélection aussi. Et quand je dis diversité, c'est la diversité régionale, culturelle, de genre, etc., etc. Et puis l'autre chose qui me semble être une des difficultés, c'est que j'ai l'impression qu'en mettant en place cette structure, on va perdre en flexibilité, on va perdre en pouvoir d'action. Et déjà, c'est compliqué de faire fonctionner le système multi-acteurs, mais on continue de dire que c'est mieux que le système intergouvernemental. J'ai peur qu'en mettant en place toutes ces structures qui vont bloquer le fonctionnement, qui risquent de bloquer le fonctionnement, on se retrouve avec des systèmes encore plus compliqués que l'intergouvernemental, et j'ai peur qu'on y perde beaucoup en termes de reconnaissance du système multi-acteur. Merci de votre écoute.
Merci beaucoup, Sébastien, dit Olivier Crépin-Leblanc. Nous avons maintenant Alain Greenberg qui demande la parole. Alain, vous avez la parole. Merci. Je ne sais pas si j'ai vraiment bien compris les commentaires de Sébastien. Je pense qu'au début, il a dit qu'il était surpris qu'on veuille accepter que ELAC ait 2 voix et que d'autres organisations aient 5 voix. Si c'est ce qu'il a dit, peut-être que je n'ai pas bien compris, mais si c'est ce qu'il a dit, je crois que j'ai dit clairement que ELAC n'allait pas accepter cela et que ALAC allait refuser cette possibilité. Donc, je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit un problème. La question de l'équilibre régional, nous sommes en train d'essayer de nous assurer que nous aurons 4 voix, et nous avons actuellement 5 voix en fonction des besoins de ALAC, de la CCNSO, du GAC. Chaque organisation a 5 voix. Je pense que c'est ce que je préfère au niveau de l'équilibre de genre. Nous essayons de trouver des gens de toutes les communautés et nous demandons aux organisations de choisir leurs propres personnes à nommer, et à ce moment-là, nous risquons d'avoir des problèmes pour parvenir à un équilibre au niveau des régions, au niveau du genre, etc. Ce serait difficile. Nous ne pouvons pas encourager les gens à participer, et nous pouvons les encourager à participer, mais nous ne pouvons pas ensuite exiger ce type d'équilibre. C'est un choix que nous devons faire. Merci. Merci beaucoup. Olivier Crépin-Leblanc reprend la parole. Nous avons encore 10 minutes pour ce webinaire. Il y a encore des questions qui pourront être posées sur ce rapport qui a été présenté. Nous avons encore le temps pour voir quels étaient les points spécifiques, peut-être, de ce groupe de travail, puisque nous n'avons pas de période de commentaires. Et quels sont les points spécifiques qui vont concerner ATLARGE, les utilisateurs d'Internet, dans cette présentation, il y a peut-être quelques points qui sont plus importants que d'autres, mais quels sont les points spécifiques que nous devons analyser pour donc empêcher ou permettre à notre communauté, je demande ici aux membres de la communauté qui sont sur la ligne, qui participent à cet appel, qu'est-ce qui serait particulièrement important pour eux dans ce domaine? Alan Greenberg, vous avez la parole.
Je pense que les choses qui sont importantes pour nous actuellement, c'est de s'assurer que nous avons une voix qui va être entendue. Nous n'allons pas gagner les conflits si nous ne sommes pas sûrs d'avoir une participation juste et à tous les processus. Donc, je crois que c'est mon opinion. Notre opinion n'est pas toujours la même que celle des différents groupes qui existent. Et parfois, c'est le cas, mais ce n'est pas toujours le cas. Merci, Alan. Olivier prend la parole. Je vais demander à ce que les différents scénarios qui pourraient affecter les utilisateurs finaux de manière négative, par exemple, le fait que ICANN devienne une organisation avec des membres adhérents, qu'est-ce que ça signifierait pour nous? Est-ce que ça signifierait d'abord quelque chose? La façon dont ICANN sera formée risque-t-elle d'affecter les utilisateurs ou pas? Voilà, c'est une question que je voudrais vous poser. Je vois qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui veulent répondre à cette question. Je vais redonner la parole à Léon pour qu'il nous rappelle un petit peu. Ah, je vois que Sébastien veut prendre la parole. Donc, Sébastien, allez-y. Et ensuite, nous allons donner la parole à Léon, qui va nous parler donc des derniers délais, des dernières dates importantes. Sébastien, vous avez la parole.
Merci. Sébastien Bacholet. Si j'ai bien compris, une part la question et d'autre part, la situation de la discussion actuelle dans le groupe de travail, il semblerait que la mise en œuvre de membres rende très difficile l'évolution de la structure de l'ICANN. Or, je pense que on aurait dû commencer par une réforme de l'ICANN, passer à un ICANN 3.0, 4.0, comme vous voulez, avant de faire cela. Ça n'a pas été possible, malgré des efforts et des demandes répétées au niveau du board et à la communauté en général. Maintenant, on est dans la situation où il faut faire vite quelque chose qui permette de nous de permettre le transfert de la supervision de la fonction IANA à la communauté. Et donc, on a un risque d'être dans une structure qui soit très verrouillée après, et donc on vous a du mal à la faire bouger, alors qu'elle aurait bien besoin d'être rénovée. Et donc, c'est un risque pour l'ICANN en général et pour ses utilisateurs et les utilisateurs d'Internet en particulier. Merci.
Merci beaucoup, dit Olivier Crépin-Leblanc. Tijani a levé sa main. Tijani veut réagir peut-être à ce que Sébastien a dit. Tijani, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, Olivier. Tijani prend la parole. Ce n'est pas une réponse à ce que Sébastien a dit. C'est juste que je voudrais informer le groupe que nous avons fait un très bon travail à Istanbul, jusqu'à la réunion d'Istanbul, à un bon rythme, mais depuis la réunion d'Istanbul, ce rythme s'est accéléré et c'est devenu très difficile pour beaucoup des membres pour suivre et contribuer. Et je pense que c'est un des problèmes de ce groupe. Il faut que ce groupe continue à refléter le point de vue de l'ensemble de ses membres, parce que certains d'entre nous ne peuvent pas suivre et ne peuvent pas participer. Par conséquent, Et en plus, je ne comprends pas vraiment la raison de ce problème, parce que je le répète, nous n'avons pas de date butoir. Donc,
On a dit parce que le CWG a besoin de notre contribution. Non, nous avons besoin de leur modèle de façon à définir les mécanismes de responsabilité adéquats pour leur modèle. Ce n'est pas dans l'autre sens. Par conséquent, nous devons fournir les mécanismes de responsabilité et nous devons travailler à un rythme normal. Et je pense que c'est un problème. J'essaye de rattraper le temps perdu. Hein. J'ai eu un problème à un moment donné, mais j'ai essayé de rattraper donc ce que j'avais perdu, mais c'est difficile. Hein. Donc je pense que je voulais le dire. Hein. Merci. Merci beaucoup, Tijani, dit Olivier. Je vois qu'il y a des réactions dans le chat. À ce propos, je crois que c'est un souci que vous avez qui reflète un petit peu l'opinion de l'ensemble du groupe, apparemment. C'est peut-être quelque chose de temporaire, je l'espère, en fonction des progrès réalisés par ce groupe. Mais je vois que Avery Doria demande la parole. Avery, vous avez la parole. Merci. C'est Avery Doria qui prend la parole. Je voudrais dire que les commentaires qui disent que le rapport ne tient pas compte de l'ensemble du sous-groupe, de l'ensemble des points de vue du groupe, je pense que le rapport tient compte des opinions du groupe qui a pu participer. Ce que Tijani a dit, c'est qu'il y a eu des personnes qui n'ont pas pu participer ou qui n'ont pu commencer à participer que maintenant et qui essayent de se rattraper. Et je pense qu'il y a une obligation de la part du groupe d'aider les personnes et à comprendre ce qui a été fait jusqu'à maintenant et à comprendre les problèmes, s'il y en a, les questions pour lesquelles certains problèmes n'ont pas été pris en compte. Donc, et à propos du modèle de transition du CWG, actuellement, ce modèle n'est pas quelque chose qui est inclus dans nos discussions, mais il va falloir que l'on aborde cette question. Et il y a eu une communication constante entre les deux groupes concernant donc les points communs qui existaient au niveau de ou entre les deux groupes CWG et CCWG. L'axe de travail numéro 1 a été bien réalisé. Le problème, c'est qu'il y a eu trop de souhaits, d'aspirations et concernant ICANN qui ont été incluses dans l'axe de travail numéro 1 et pour donc réduire un petit peu la charge de travail de l'axe de travail numéro 2. Merci beaucoup, Olivier, prend la parole. Et Alain, vous avez la parole. Merci, dit Alain. Je sais que j'ai juste une minute pour dire ce que je veux dire. Tijani a raison, je suis une de ces personnes qui se sont perdues dans le travail du groupe. Les personnes qui travaillent au niveau des sections individuelles ont été très efficaces, mais peut-être que le reste du groupe n'a pas pu suivre la vitesse de certains. Donc, je pense que certains n'ont pas pu suivre. Hein. Donc, voilà, c'est vrai. Mais je pense que nous avons fait suffisamment de travail et, comme Léon l'a dit, il peut y avoir encore une rédaction ou une version préliminaire ou deux versions préliminaires qui vont être rédigées. Et c'est le moment d'avoir davantage de gens qui participent, d'augmenter le nombre de gens qui participent. Et c'est le moment et que les membres du groupe qui se sont focalisés sur certains domaines et pas sur d'autres, c'est le moment qu'ils prennent contact avec les autres et qu'ils sachent quels sont les autres problèmes qui existent, hein, parce que c'est important aussi. Ce qui m'a surpris, c'est que on parle de la CCNSO qui pourrait peut-être ne pas participer. On a aussi constaté que dans le modèle actuel, ils auraient dû être capables d'avoir le pouvoir qu'ils ont actuellement. Hein. Donc, on a certaines situations intéressantes qu'il va falloir résoudre. Hein. Je ne sais pas encore comment, mais je crois que nous avons encore le temps de vérifier certains points. Merci beaucoup. Merci Alain. Nous avons 5 minutes de plus, puisque nous avons commencé 5 minutes en retard. Donc, je vais demander à Léon et Olivier Crépin-Leblanc quelles sont les prochaines étapes pour le groupe de travail concernant les périodes de commentaires publics et ce que nous devons donc, les points dans les domaines dans lesquels nous devons nous préparer. Est-ce que Léon est encore avec nous? Oui, je suis là, dit Léon. Bien, très bien. Allons-y. Et merci beaucoup. Alors, nous allons présenter le document préliminaire le 1er mai pour la période de commentaires publics. La période de commentaires publics va durer du 1er mai. Les membres d'Atlarge et les membres de la communauté d'Internet pourront faire des commentaires sur cette proposition préliminaire qui sera donc soumise pour cela. Et une fois que nous aurons fait la révision des contributions faites par la communauté, nous essaierons d'incorporer commentaires ou contributions dans une deuxième version préliminaire de ces propositions qui sera présentée juste après la réunion de Buenos Aires ou pendant la réunion, et ensuite nous réviserons ce document et nous le présenterons à une deuxième période de commentaires publics une fois que les modifications seront faites, et ensuite nous soumettrons cette proposition aux organisations membres, et si elles approuvent le contenu de notre proposition préliminaire, nous la présenterons au Conseil qui, à son tour, la soumettra à l'NTIA. Donc, nous n'avons pas encore de date précise parce que tout dépend de la période au cours de laquelle ou de si nous allons organiser ou pas une deuxième période de commentaires publics. Si c'est le cas, nous aurons une proposition finale pour l'approbation du Conseil lors de notre réunion de Dublin. Et donc, nous avons encore 6 mois devant nous avant donc que cette proposition ne soit présentée au Conseil, et nous avons 6 mois pour que cette proposition soit approuvée par les différents groupes de travail et pour qu'elle soit présentée au NTIA finalement. Voilà. Donc c'est un peu les délais que nous avons, le calendrier que nous avons, et nous acceptons tout commentaire et nous encourageons même la communauté à faire des commentaires sur ce calendrier. Une partie importante est ce que Cheryl a dit, c'est-à-dire la question des tests de stress ou de résistance. Et si vous voyez des situations qui n'ont pas été abordées dans cette analyse de tests de résistance ou de tests de stress, nous vous demandons de nous en faire part. Et nous vous remercions d'avance pour votre contribution dans ce sens. Renalia demande: quand est-ce que nous allons présenter notre proposition au Conseil? Nous travaillons là-dessus, le CCWC travaille sur ce point-là pour trouver un moment et pour que notre coprésident puisse rencontrer le Conseil. Je pense que ce sera au mois de mai. Je n'ai pas encore de date. Nous sommes en train d'organiser cette réunion qui aura lieu avant Buenos Aires. Nous sommes en train de voir comment est organisée donc cette rencontre. Je vois que Cheryl nous dit que s'il y a des contributions, elles doivent être envoyées sur la page Wiki. Et qu'il n'est pas nécessaire d'inclure cela dans les réponses aux commentaires publics. Bien. Il n'y a pas d'autres commentaires, dit Léon. J'ai fini. Merci beaucoup, Léon. Cheryl demande la parole. Cheryl, vous avez la parole, dit Olivier. Cheryl prend la parole. Merci. Je suggère que on fasse des propositions ou des scénarios de propositions de stress test ou de test de stress sur la page Wiki, puisque c'est très important pour les mécanismes et pour l'autonomisation de la communauté. Hein, donc, cependant, ces tests de stress sont ou figurent dans le commentaire public, donc vous pouvez aussi donner votre opinion dans votre réponse au commentaire public ou envoyer cela sur la page Wiki. Nous les considérerons exactement de la même façon. Si vous le faites dans le commentaire public, cela rentrera dans le circuit formel des commentaires publics. Et donc, je vous demanderai, si vous voulez que ce soit plus rapidement lu, de l'envoyer sur la page Wiki. Merci beaucoup. Olivier reprend la parole. En ce qui concerne AtLarge, les prochaines étapes sont d'avoir la réponse ou de mettre en place une réponse à ce commentaire public. Je crois que Léon l'a dit, ce commentaire public va commencer le 1er mai. Il nous reste juste quelques heures. Hein. Donc, si vous voulez, nous pouvons mettre en place une page. Le 4 mai, hein, nous avons encore quelques jours, mais nous pouvons créer cet espace concernant ce commentaire public pour que nous puissions, je pense que c'est une action à suivre que l'on peut créer, parce que c'est une période de commentaire public très courte, et donc il faudra être capable de participer et de répondre. Hein. Et donc, dans cet espace, on donnera le lien au webinaire, à l'enregistrement de ce webinaire pour que les gens puissent y recourir. Merci beaucoup. Je remercie tout le monde sur cet appel. Je remercie les interprètes, Sabrina sur le canal espagnol et Claire et Camilla sur le canal français. Et je remercie aussi Gisela qui a fait du très bon travail pour préparer ce webinaire. Donc, merci. Gisela, et merci à tous pour avoir participé à ce webinaire. Cet appel est terminé.
Merci, mesdames les interprètes. Merci beaucoup.
Merci.